France Inter.
Le masque et la plume. Bonjour et belle, bonne, grande année à toutes et à tous. Bienvenue à une heure inhabituelle en public au théâtre de l'Alliance Française pour un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma avec Sophie Avon de Sud-Ouest, Pierrot, Pierre Murat de Télérama, Michel Simon de Positif et Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et de France Inter, puisque tous les vendredis matin à 9h05, vous pouvez entendre sa chronique sur les séries. On parle ce soir du Parfum Vert, du Petit Piaf, de Joyland, du Caravage, des Banshees d'Inisherin, des Huit Montagnes et d'un documentaire de Benoît Jacquot sur Isabelle Huppert et Fabrice Luchini. Ce masque est donc le premier de l'année, c'est aussi le dernier auquel participe notre chère Sophie Avon. Sophie qui cesse ses activités de critique à Sud-Ouest et donc au Masque et la Plume, où je l'ai fait venir en 2005.
Oui, je me souvenais plus. Hein.
Pour se consacrer désormais, et je la comprends, à sa belle œuvre de romancière. Dire que je vais, qu'on va la regretter est un euphémisme. Merci à vous de l'applaudir comme elle le mérite.
Oh, merci. Arrêtez. Je m'y attendais vraiment pas. Mais merci. Enfin, j'ai pas préparé de discours. Vu le nombre de films dont on a à débattre, je crois qu'il vaut mieux pas d'ailleurs. Mais merci beaucoup de vos applaudissements. Je suis très touchée.
Bonne année, merci, mais tu as le droit de venir de temps en temps quand même nous
embrasser. Quand tu veux, hein, quand tu veux, on est plus à ça près.
Je t'en prie. Dans le courrier de la semaine, Saint-Omer d'Alice Diop n'a pas conquis nos auditrices, c'est moins qu'on puisse dire, et auditeurs. Pour François Gerbeau de Paris, c'est un film squelettique et froid, comme une porte de prison, que le masque évidemment encense avec des critiques comme vous. Le cinéma français ne risque pas de se renouveler de sitôt. Daniel Brévin juge Saint-Omer extrêmement poseur et lourdingue. Un film bon pour feu les dossiers de l'écran, selon Patrick Ferret-Gouty du Luxembourg. Comment, demande Jean Tardy, a-t-on pu envoyer ce pince-homme représenter la France aux Oscars ? Pour Patrice Piche de Toulouse, c'est juste un assez bon film, platement réalisé, avec quelques dialogues et références ridicules. Et avec la traverse de Paris, cette froideur, cette distance me laisse en dehors. Je suis rentré vide chez moi. Ce film, ajoute Antoine Carinci de Clermont-Ferrand, n'a pas de force, pas de style, pas de ligne. Quant au monologue final de l'avocate, dont le jeu est l'un des plus affreux que j'ai vu au cinéma, il est ridicule. Enfin, pour Jean-Luc Viau, c'est un beau film, si on est du racien. Voilà. Et Avatar, eh ben, c'est visuellement époustouflant pour Emmanuel Oblingre de Pantin, mais trop long. Pour Damien Villelem de Chaumont, c'est la bouse cosmique de l'année. Jean-Luc Clairet rebaptise Avatar, Avatar la voix de l'horreur. Ce film s'apparente à un jeu vidéo, presque un Marvel, l'horreur quoi. Yann Bellerian, je suis consterné de m'être fait avoir. L'histoire est nulle, avec tous les poncifs que l'on imagine. Je suis encore sous le coup de la colère. Ou encore Sidonie Rocher de Ronnie Soubois, je n'ai pas pu voir ce spectacle tellement la violence et le manque de sens m'ont crevé les yeux. Pour moi, Avatar est malsain. Voilà, ben voyez, Avatar ou Saint-Omer, même refus de nos fidèles auditrices et auditeurs. Et on commence avec les Huit Montagnes. le film qu'on avait vu à Cannes, de Charlotte van der Mersch et Félix von Gröningen, qui a reçu, je le disais à Cannes, le prix du jury ex aequo avec Eo de Skolimowski, et c'est adapté du roman de Paolo Cognetti. C'est l'histoire d'une amitié entre Pietro, qui est un garçon de la ville, de Turin en l'occurrence, qui est joué par Luca Marinelli, et Bruno, c'est Alessandro Borghi, dernier enfant à vivre dans un village du Val d'Aoste. Tandis que Bruno reste fidèle à ses Alpes profondes, Pietro parcourt le monde jusqu'au Népal, sans que jamais, il faut dire, leur amitié soit mise à mal. Le film de paysage, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup plus que de personnage, où il faut accepter la lenteur. Le film court sur une vingtaine d'années, la longueur, 2h30, et avoir l'esprit contemplatif. Mais est-ce que vous avez l'esprit contemplatif, Sophie ?
Eh bien, je dois l'avoir, parce que je vois tous les défauts du film, et pourtant je l'aime, ce film. J'ai été très bouleversée. Je suis pas sûre que ce soit un film, comme tu l'as dit, que de paysages plus que de personnages. Pour moi, les personnages sont malgré tout très forts, parce qu'ils ont rien de commun, et en même temps, quand ils se retrouvent 15 ans après, ils ont en commun quasiment, enfin c'est presque une histoire de fraternité, ils ont en commun une absence, un manque, chacun ayant le manque de cet homme qui est le père de l'un, oui. et qui a été très présent à l'un, très absent à l'autre, et qui fait que ça les lie à jamais, c'est-à-dire le souvenir de l'enfance, le souvenir de ce qui aurait pu se passer, le souvenir de ce qui n'est pas advenu, mais qui aurait dû advenir ou qui aurait pu advenir. Enfin, tout ça les lie sans qu'ils aient besoin d'en parler et autour de ce chantier. Et en même temps, je dis, je vois les défauts. Alors, je trouve ça bouleversant parce que c'est de l'ordre de cette amitié, est de l'ordre de la fraternité. Vraiment, ils pourraient être deux fils finalement. Mais en même temps, je reconnais que c'est un peu édifiant. Je reconnais que le lyrisme est parfois un peu, c'est un peu too much. C'est un peu explicatif. C'est un peu long. Il y a plein de moments où je me disais,
surtout des plans, des paysages et des montagnes. Tout ça est magnifique, ce Val d'Aoste.
Ça, c'est très beau. Oui, bon. Après, un film, c'est pas une suite de cartes postales non plus. On est d'accord. Hein. Oui. Mais c'est pas des scènes de cet ordre, moi, que je lui reproche. C'est plutôt des rebondissements à l'intérieur de l'intrigue qui n'en finit pas, quoi. Qui, d'une certaine manière, est relancé chaque fois les petits mots du père, etc., etc. Enfin, bon, je vais pas en dire trop non plus parce que. Mais encore une fois, malgré tous les défauts que je peux voir, je suis emportée par l'émotion et j'ai envie de le... Je trouve que la beauté est supérieure à ses défauts.
Tu me laisseras quand même penser que le prix du jury, ça me paraît beaucoup...
J'avais oublié qu'il y avait eu le prix du jury, ouais.
C'est là où Sophie Avron va terriblement nous manquer, outre la très belle personne qu'elle est. C'est-à-dire que j'aimerais voir le film avec ses yeux. Mais moi, les 8 montagnes, je les ai grimpées. Et puis là, je peux vous dire que n'étant pas sportif, de nature, je le suis encore moins, j'ai senti les courbatures au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et il en restait plus de 2h10 à subir. C'est pour moi le cliché du film contemplatif qui n'a rien à raconter. Alors, c'est inspiré d'un roman, bon, d'accord. Les deux auteurs qui étaient...
Le roman était beaucoup plus complexe. Hein.
Je l'espère, parce que en faire un livre, c'est déjà un exploit. Mais alors, arriver à l'éditer...
Je peux quand même pas dire, Xavier, que ça n'a rien à raconter. Je veux bien entendre toutes les critiques, mais que ça n'a rien à raconter.
Ça n'a pas grand-chose. Non, mais je suis ravi, Sophie, et c'est sans ironie que tu aies trouvé du grain à moudre. Moi, je me suis emmerdé du début jusqu'à la fin. Cette amitié entre le petit citadin et le petit rural, ouais, bon, d'accord, faite de choses qu'on a mille fois vues, petit montagnard. Quand ils se mettent à construire ensemble, à reconstruire le chalet,
gîte.
Là, on a droit à une soirée de diapo, c'est-à-dire qu'un jour, ils sont dehors, un jour, ils sont à l'intérieur parce qu'il pleut, un jour, ils sont sur le toit, un jour, ils sont sur le banc.
On regrette les bronzés fondus.
Ah, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment la soirée de diapo avec une voix pour nous commenter tout ça. Et puis, à un moment vient où un des personnages, le citadin, a une petite crise existentielle. Évidemment, papa, tout le train, c'est quand même une succession de clichés. Il va où ? Bah, au Népal, hein, comme tous les petits blancs qui ont un problème existentiel. Donc, je pense qu'il y a des charters entièrement réservés pour les petits blancs qui ont des problèmes existentiels et qui vont au Népal. Là-bas, qu'est-ce qu'il fait ? Il discute expresso. Le café, oui, avec un local, en disant, c'est pas mal, ça m'a rappelé la pub Gringo, tu sais, pour Jacques Vabre, dans les années 70, mais tu sais qu'il est bon, ton café, et l'autre fait oui, de la tête, comme ça, la barrière de la langue, il y en a assez peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il fait un bouquin, c'est un succès. Bah ouais, tu m'étonnes, la pauvreté de la littérature, en est desservie. Enfin, c'est quand même un film qui aligne les idées toutes faites, les images toutes faites, et franchement, je n'y trouve jamais de fond, jamais de contenu.
Je suis sûr, Sophie, que Xavier va te manquer aussi.
Oui, beaucoup.
Mais non, mais je fais tout pour qu'elle n'ait pas de regrets. Je fais tout pour qu'elle nous quitte avec joie.
Michel.
Non, j'ai donné sa chance au film, même si je suis pas fou des cartes postales, pendant 30 minutes, c'est-à-dire ce côté, cette douceur contemplative, ces belles scènes d'aventure entre deux enfants, ça m'a séduit, mais après, c'est plus possible. D'abord parce que, évidemment, ils se retiennent pour faire des conflits. Il y a un très beau conflit au départ, c'est ce que tu as résumé, Jérôme, entre Pietro qui parcourt le monde et Bruno qui reste dans sa région. C'était un conflit entre l'enracinement et puis l'errance. C'était un magnifique sujet, il n'est pas traité. C'est-à-dire, il évite tout conflit, et c'est ce qui fait que le film, tout de même pour 2h30 sans conflit, ça devient effectivement une succession de beaux paysages, mais où il n'y a aucune vitalité narrative. Donc je ne veux pas être trop long là-dessus. Je signale tout de même que ce qui est étonnant et qu'on n'a pas assez souligné dans la presse française, c'est que les Belges avaient 3 films en compétition à Cannes, et tous les 3 ont été primés. Peut-être notre orgueil national a été blessé.
Dans ce qui est drôle, c'est qu'on ait eu l'âne et les montagnes, comme prix ex-aequo du jury.
C'est gentil,
Pierrot.
Moi, c'est pas du tout un film pour moi, mais alors pas du tout un film pour moi, parce que la nature, les machins, et je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, je suis comme...
Ah, merci Pierre.
Je trouve ça, parce que j'ai été vraiment...
Parce que tu vas jamais à la montagne, c'est pour ça.
Mais j'ai
tu l'as découvert.
Je suis entré dedans, ça m'a pas paru long. Tout ce que vous dites, enfin, Michel et Xavier, sur...
La vie intérieure.
Il se passe rien, mais si, il se passe... plein de choses entre eux. Moi, je suis très sensible à cette amitié qui naît. Alors, au départ, je me suis dit, oulala, le côté Pagnol, les deux gamins qui se retrouvent, moins le soleil, moins la chaleur et tout. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup, absolument séduit, c'est lorsqu'ils se retrouvent à 15-16 ans, ils ne se parlent pas, il n'y a plus rien entre eux. Et c'est après que l'amitié renaît, et à partir de là, elle devient formidable. Je trouve que c'est une idée... Et puis alors, j'aime beaucoup ce que... Parce que ça renvoie à notre snobisme à tous de citadins, ce que le montagnard dit à un moment donné, il dit « il n'y a que vous, les gens de la ville, pour parler de nature, nous, on dit forêt, pré, torrent, roche, sentier, c'est-à-dire qu'on est dans le concret. Entend certains discours, je t'assure que ça fait du bien d'entendre ça. Moi, je trouve que c'est un film vraiment sur l'amitié, et moi, pendant tout le film, j'ai été absolument subjugué. Voilà. »
Eh bien, c'est parce que tu as besoin de spiritualité, de t'élever
mais
aussi.
Oui.
C'est pour ça.
Oui. Peut-être, peut-être pour rejoindre ceux qui n'aiment pas, peut-être que si en effet, le cinéma italien, jadis de Ermanno Olmi, ou de quand il faisait dans L'arbre aux sabots, etc., il y avait de la chaleur en plus qu'il n'y a pas. C'est un film belge, quand même.
Puis, C'est un film belge qui se passe dans le Val d'Aoste. Les 8 montagnes de Charlotte Vandermeer chez Félix von Gröningen. Des réactions sur ce film? Oui, une réaction. Le micro vient vers vous. Bonjour.
Bonjour. Franchement, bon, c'est peut-être pas un très grand film, mais je trouve que vous le tensez un peu trop. Ça mérite pas d'être démoli autant. Alors, c'est long, ça mérite... de synthétiser certaines parties ou voire d'élaguer. Tout ce qui se passe au Népal, franchement, c'est inutile. Ceci étant, franchement, je trouve qu'il se passe quelque chose dans l'amitié, notamment à partir du moment où les difficultés apparaissent. Alors, certes, c'est à la fin du film, mais il y a vraiment quelque chose, une émotion qui naît. Et puis, bon, les paysages sont quand même à couper le souffle. Donc, voilà, ça maintient notre attention le temps que l'intérêt arrive.
Merci de votre intervention. Vous êtes, comme Sophie et comme Pierre Murat, une bonne personne, contrairement à nous. Autre histoire d'amitié, et selon moi, grand film, c'est The Banshees of Inisherin. Comprenez les sorcières ou d'Inisherin, du cinéaste et dramaturge irlandais Martin McDonagh, à qui on doit Bon baiser de Bruges avec déjà Colin Farrell et Brendan Gleeson. Ça pourrait être du Beckett, sur une île isolée de la mer d'Irlande, 2 amis de toujours, Padraig, c'est Colin Farrell, et Colm, c'est Brendan Gleeson, qui refont le monde en buvant de la Guinness, comme souvent Xavier et Pierrot. On est en 1920, la guerre civile fait rage en Irlande. Et puis un jour, Colm, qui est musicien, décide de rompre. « Je crois que je ne t'aime plus », dit-il à Padraig, lequel refuse le verdict et va tenter de recoller les morceaux avec l'aide de sa sœur et d'un jeune insulaire un peu dérangé. Mais c'est en vain. Et plus l'un s'obstine, plus l'autre se cabre. Se mutile, mais je ne vais pas en dire plus. Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Non.
C'est dans la bande-annonce.
Moi, je ne regarde pas les bandes-annonces, je regarde les films.
Nous aussi, mais c'est clairement assumé par le distributeur. Donc
il s'inflige quand même de se couper les doigts les uns après les autres.
Alors, il dit, McDonagh, qu'il est avoir pris pour modèle La Nuit du Chasseur et puis les westerns de John Ford, version celtique. Pierre ?
Ah, je trouve ça magnifique.
C'est magnifique, hein ?
Je trouve ça magnifique.
Ah, bah voilà.
Non, mais ça, c'est...
On se comprend.
Par rapport à mais bien sûr que là, on est... C'est un très grand film. Alors, ce qui est absolument... Moi, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser... À pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute. Je veux dire, dans le. Non,
mais moi, je pensais plus à Beckett.
Non, mais au départ, parce que tout part d'un mot chez Nathalie Sarraute. C'est oui, non, et tout devient absolument, et ça devient tragique. Et là, c'est un geste, c'est en effet, je ne t'aime plus, je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Et donc, il y a un type qui veut se consacrer à son art, et c'est un petit peu dérisoire en même temps. Et l'autre qui est là pour boire des coups avec son pote. Et à partir de là, le réalisateur a surtout le courage, dans un cinéma quand même qui est quelquefois un peu bien pensant, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne recule en effet devant rien, et ça devient de plus en plus tragique, ça devient de plus en plus absurde. Et la qualité du dialogue aussi, la façon dont le dialogue est repris, c'est-à-dire les répliques se reviennent les mêmes, mais pas tout à fait les mêmes, et tout ce qui se passe entre eux, en plus il y a un personnage de... la sœur de l'un des personnages qui est absolument magnifique parce qu'elle veut s'en sortir et on ne sait pas si elle va y arriver ou pas. La seule petite légère réserve, ce serait la banshee en question, ce personnage de entre guillemets de sorcière puisqu'il faut traduire comme ça, qui est là un peu
c'est
comme
pas vraiment sorcière,
le destin, le destin, etc. Voilà. C'est un peu lourd. Mais pour le reste, c'est une merveille.
Michel.
Oui, c'est un très très grand film. Qui est d'ailleurs en pole position pour les Oscars, je comprends. Le jury de Venise lui a donné le prix du scénario, ce qui est très mérité, parce que il faut pas oublier que Martin McDonagh est un auteur dramatique.
Il aurait mérité la mise en scène aussi, je trouve.
Oui. Sens,
et le Lion d'Or, peut-être aussi.
Bien sûr, je dis que le scénario, c'est bien. Et les comédiens, Colin Farrell, prix d'interprétation, malheureusement pas ex aequo, ils auraient dû le donner à Brendan Gleeson, parce que les deux sont formidables. Ces deux générations, il y a cet homme plus âgé qui veut se consacrer à la musique. Il aussi une certaine méchanceté, un regard ironique dans le regard du metteur en scène. Il ne faut pas oublier les panneaux de la vengeance, Three Billboards, qu'on a vu il y a 4 ans avec Frances McDormand, qui était également un très très grand film. Voilà l'arrivée d'un très grand cinéaste irlandais, et on pense évidemment dans des paysages sublimement, alors là c'est pas de la carte postale, sublimement tournée, on voit des références à John Ford, à L'Homme tranquille. Donc c'est un film vraiment magnifique.
Oui, c'est vraiment le grand film de ce soir.
Un très, très, très grand film.
Sophie.
Oui, je suis d'accord, c'est absolument magnifique. Et alors, ce qui est dingue, c'est comment, avec un enjeu en effet aussi simpliste, un enjeu de cours de récréation, hein, je t'aime plus, je veux plus te voir, il arrive à déployer un film aussi universel, aussi solide, aussi tragique, aussi vaste. Et alors, à mesure que les enjeux se complexifient, alors bon, moi, je peux pas trop en dire, parce qu'il y a
pas
que...
Mais faut pas trop en dire.
Que ça, ouais, je suis d'accord, il faut pas trop en dire. Mais il y a toute cette île qui ne parle jamais de la guerre qui tonne.
Mais qui est là, hein. Elle est là.
Mais eux, ils en parlent jamais.
Fond.
Et cette communauté endogamique, complètement endormie, petit à petit, se réveille et se révélant, se fissure. Et puis tout à coup, les gens deviennent de plus en plus intelligents. Ils deviennent pas meilleurs, hein. Mais ils deviennent plus intelligents. Et puis, petit à petit, on en vient, et même Paldrey, qui a un cœur, quoi, qui est vraiment d'une innocence incroyable, il tient un discours incroyable à un moment donné face à Colm. On lui dit, et tout à coup, il est question de Mozart, il est question de choses métaphysiques, il est question de transmission, il est question de création, et bref, ce film, on sait pas comment, il part de rien, et il enfante une épopée humaniste, métaphysique, absolument somptueuse. C'est dingue.
Xavier.
On va gagner du temps, bien sûr, s'il, un des plus grands films de cette soirée et de ce programme. C'est un des plus grands films de l'année, de toute manière. Moi, je suis ravi parce que je vois quand même son réalisateur se dépouiller peu à peu. Bruges, c'était très travaillé, c'était très dialogué, c'était un peu fabriqué. Moi, je trouve que c'était encore un tout petit peu le cas de Three Billboards. Là, il y a un dépouillement qui va parfaitement, d'abord au personnage, à la situation. Ce sont des taiseux, ce sont au pire des musiciens, mais la marolle n'est pas la leur. Même quand ils boivent des coups ensemble, ils prononcent 4 mots. Donc, il y a cette espèce comme ça de culture du silence qui va devenir une espèce d'enjeu à l'intérieur du film parce que le silence, le personnage, là, je vais le garder, je ne te parle plus, je ne t'aime plus, mais je ne te dirai jamais pourquoi. Ce qui crée un suspense métaphysique et spirituel à l'intérieur même du film, c'est remarquablement écrit, remarquablement interprété. On a effectivement parlé de la sœur, qui est un personnage formidable, c'est Kerry Condon qui joue, mais Barry Keoghan, qui est ce petit personnage freliqué, fragile, fils d'un policier abusif, et qui raconte aussi sa propre histoire de manière tragique. On a l'impression que ça ne raconte rien, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de finalité ou de résolution, et en fait, Sophie l'a très bien dit, elle va vraiment nous manquer, il y a une amplitude, une ampleur, une universalité dans le sujet. Allez-y, c'est vraiment un des plus grands films en termes de mise en scène et scénario de cette année. Hein.
Les Banshees d'Inisherin, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Oui. Le micro vient vers vous.
Ce film tragicomique ne m'a fait ni rire, ni sourire, ni ému, à l'image de Colin Farrell, que j'ai trouvé très plat dans son jeu. Voilà.
Il me semble que vous n'avez pas aimé ce film.
Alors, je vais vous dire, ça m'est arrivé il y a quelques années, vous étiez tous contre. J'étais pour ce film et je me suis tu. Et j'en ai parlé à un journaliste de Positif qui m'a dit « Mais quand vous aimez un film, il faut absolument le défendre, etc. » Donc j'ai pris le micro ce soir pour vous dire que je n'ai pas aimé du tout ce film. Enfin, je ne suis pas entré dedans.
Alors,
voilà, j'ai osé.
Merci en tout cas, monsieur. Je crois que madame veut aussi s'exprimer. Bonjour madame.
Alors, vous n'avez pas évoqué, ou peut-être très brièvement, j'ai peut-être pas entendu un film antérieur qui s'appelle « Bon baiser de Bruges ».
Oui, si, je l'ai évoqué au tout début, parce qu'il y avait le même couple de comédiens.
Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, voilà. Effectivement, il y a le même couple de comédiens, et alors je ne sais pas si c'est parce que justement, je suis une très grande fan de ce film, « Bon baiser de Bruges ». J'ai eu beaucoup de mal, moi, du coup, à rentrer dans cette nouvelle histoire, avec donc ces deux mêmes comédiens qui sont, à mon sens, toujours charismatiques, hein, quoi qu'ils fassent. Voilà. Et en fait, j'ai été aussi je me suis sentie un petit peu piégée par le côté extrêmement dramatique auquel je n'étais pas habituée, à vrai dire, puisque pour moi, Bon baiser de Bruges est un cocktail absolument incroyable, justement, de dramatique, de drôlerie, d'inventivité, de code, de genre de film plutôt différent. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de comédie noire. Voilà. Et je m'attendais à retrouver un peu le même cocktail, je dois dire. Donc là, il m'a quand même un peu pris au dépourvu. Donc j'ai moins aimé, je dois le dire. Peut-être faudrait-il que je le revoie maintenant, suite à tout ce que vous venez de dire, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, il faut aussi se dire que dans le métro, là, justement, je l'ai vu même aujourd'hui, le film est décrit comme une fable drôle et cruelle. Et le mot drôle, à mon avis, est quand même un peu déplacé.
Au sens, voilà, je le disais, becquettien du terme, c'est-à-dire en frôlant l'absurde. Mais c'est votre droit, hein, c'est ça, le masque et la plume. Merci en tout cas pour vos interventions. On n'a évoqué que deux films. Je vais vous demander d'être malheureusement rapide sur tous les prochains. Sinon, on n'aura pas le temps d'en parler. Le parfum vert de Nicolas Pariser, à qui on doit l'excellent Alice et le maire. Et ça commence comme un polar classique. Le lieu du crime, la prestigieuse salle Richelieu de la Comédie française. Un acteur est empoisonné, il meurt en pleine représentation. Et Martin, c'est Vincent Lacoste, qui appartient à la troupe, a été le témoin du meurtre. Et juste en sortant, il est enlevé, puis libéré par une mystérieuse organisation d'extrême droite, le parfum vert. Et puis, une fois libéré, il est pourchassé par la police, dont il est le suspect numéro un. Et dans sa fuite à travers l'Europe, qui va le mener jusqu'à Budapest, il est aidé par une dessinatrice de bande dessinée, Claire, et c'est Sandrine Kiberlin. Et le polar vire alors à la parodie, voire à la comédie, sur un ton qui voudrait marier Hergé et Hitchcock, avec en toile de fond le fascisme et l'antisémitisme, ce qui me paraît beaucoup pour un seul film, si vous permettez de glisser un sentiment. Sophie ?
Moi, je trouve que c'est un petit bijou, ce film. Je trouve qu'il arrive à doser l'aventure. Oui, je suis désolée de ne pas être d'accord. Il dose à merveille le divertissement, la comédie, l'aventure. Et puis, ce propos souterrain sur une Europe hantée par la Shoah. Et je trouve que ça reste souterrain, mais c'est quand même très présent.
Non, c'est très présent. Il y a plein
c'est drôle. C'est un film qui est drôle aussi. Donc, il arrive quand même à mélanger les deux. Je trouve qu'il y a un dosage entre la mécanique elle-même et puis surtout, c'est la vérité des personnages. Parce que ce couple, qui est quand même très farfelu, mais en même temps, il reste toujours crédible. Je trouve que c'est très drôle la façon dont elle, finalement, joue le rôle de l'homme et lui, le rôle de la femme. D'une certaine manière, Vincent Lacoste, il est toujours sur le point train de défaillir, et c'est lui qui fait à manger, etc. Et elle, elle a une veste de capitaine. Alors c'est des codes un peu surannés, mais enfin il y a un jeu là-dessus. Et surtout, ce que je trouve très beau dans le film, c'est que il y montre très bien comment le monde qui nous entoure est révélé par la fiction. Il est révélé par l'imaginaire. Il est révélé même par la magie, puisque l'illusion comique de Corneille, on n'est pas obligé de le savoir, mais parle de ça, de la magie qui révèle les choses. Et ça, je trouve que c'est un film qui est jamais cuistre, mais qui est d'une très très grande richesse.
Pierre.
Échec total, ah oui. Désastre. Non, parce que c'est un film. En plus, moi j'aime beaucoup Nicolas Parizer.
Moi aussi, Alice et le Maire était formidable.
Ah ben moi je trouve celui-là bien meilleur qu'Alice et le Maire. Bien meilleur.
C'est nul. Non, mais c'est nul. C'est raté dans la mesure où simplement les modèles sont Hitchcock et Hergé. Mais Hitchcock, alors il y a Marnie, il y a les 39 marches, il y a le rideau déchiré, il y a tout comme allusion. Mais enfin, quand on rend hommage à Hergé et à Hitchcock, on s'arrange au moins pour faire un film un peu rythmé, un peu fantaisiste, un peu drôle. Là, c'est absolument hommage, sinistre, c'est terne. Il y a la mise en scène, tout ça étant pesé, etc. Et alors la lourdeur. Quand on pense à Woody Allen fait Meurtre mystérieux à Manhattan, il y a l'allusion à, vous savez, quand j'entends trop de Wagner, j'ai envie d'envoyer. Enfin, tout ça, ça se passe en 30 secondes, en 10 secondes avec un plan éloigné. Là, le mec, il arrive à Nuremberg, il s'évanouit, et puis les plans de tous les côtés pour bien montrer. Et si on n'avait pas compris, on insiste dans le dialogue. Ah ouais, je vais pas me retrouver dans la forêt comme ça. Mais non, ça n'a c'est un ratage total. Voilà.
Xavier.
Bon, je vais te mesurer. Ça démarre bien. Je trouve que la première.
Ça démarre bien, absolument.
Ouais, elle est fringante, elle est drôle.
Juste après la Comédie française, quand il est enlevé, ça devient un peu plus lourd.
Oui, mais quand il est perdu le matin dans Paris et qu'il rencontre Sandrine Kiberlin, qui est en train de signer, devant personne d'ailleurs, son dernier livre, et qu'il y a une rencontre que je trouve pleine de charme. Enfin voilà. Là, les références fonctionnent plutôt bien. Après, je suis d'accord avec Pierre, la fin est interminable. Il n'y arrive plus du tout. Tout ce qui se passe autour justement de l'illusion comique. Alors Sophie, tu as raison, Nicolas Parizer est un homme érudit, mais là il n'y arrive pas. La scène est interminable et en plus on est obligé d'avoir un twist final auquel on ne croit absolument pas pour conclure le film à toute vitesse. Il essaye d'insuffler du rythme avec une symphonie de Mozart, mais même la symphonie de Mozart, elle s'arrête avant que la scène ne s'arrête. Donc ça prouve bien qu'il y a un moment, il y a un trop plein dans le montage, il n'a pas su choisir. Et c'est dommage parce que le film se délite constamment alors que c'est un type hyper doué avec un casting 3 étoiles. Enfin vraiment, non. Malheureusement, c'est une déception.
Enfin, de temps en temps, on aime bien voir aussi un film sans Vincent Lacoste, parce qu'il est quand même... Michel.
Oui, je pense que c'est raté, effectivement. Moi, j'ai une grande admiration. Je pensais que Nicolas...
Tu vas nous manquer, Sophie, tu vas nous manquer.
Vous auriez pu faire un effort, quand même.
je pense toujours, d'ailleurs, que Nicolas Parizer est un cinéaste sûr. Très prometteur, parce que ses deux premiers films...
Absolument.
Dans les registres, d'ailleurs, aussi de complot, etc., mais avaient une touche, une légèreté et une réussite totale, aussi bien Le Grand Jeu que L'Alice et le Maire. Tandis qu'ici, j'ai vu, au début, effectivement... ce pastiche, parce que Hitchcock est toujours en référence et la ligne claire de Hergé. D'ailleurs, le film se veut ligne claire. Et je me demande s'il était l'homme pour ce genre de traitement. C'est-à-dire un traitement léger, pétillant, etc. Et le film, comme tu le disais, Jérôme, toute la deuxième partie est surchargée de la Shoah, du complotisme, de l'Europe de l'Est, de la Russie, etc. Et ça devient un film qui s'embourbe complètement.
Le parfum vert de Nicolas Parizer, peut-être des réactions sur ce film. Oui, le micro vient vers vous.
Oui, bonjour. Moi, je suis d'accord avec Sophie. C'est un bon moment.
Vous n'êtes pas de sa famille, non.
Comment ?
Vous n'êtes pas de sa famille.
Non, mais je commence aussi à la regretter. Non, c'est une belle bande dessinée au cinéma. On s'ennuie pas une seconde. Et j'ai trouvé que tout était soigné. J'ai pas cherché la petite bête comme certains. Voilà. Bonsoir.
Merci. Merci pour votre intervention, Caravage. J'ai encore rien dit, hein. Le biopic que consacre l'acteur et réalisateur italien Michele Placido au Caravage, incarné ici par Riccardo Scarmaccio, avec également, mais y a-t-il des films sans eux aujourd'hui, Louis Garrel et Isabelle Huppert. On est donc évidemment en 1609, un an avant sa mort, à 38 ans, il est accusé du meurtre, ce qui est vrai d'ailleurs, d'un aristocrate. Le Caravage s'est réfugié à Naples, mais il veut obtenir la grâce de l'Église pour revenir à Rome, apprenant que le peintre subversif et amoral utilise des prostituées, des voleurs et des vagabonds comme modèle pour ses tableaux, le pape Paul V fait mener une enquête sur le peintre par un inquisiteur qui s'appelle L'Ombre. Et qui est L'Ombre? C'est évidemment Louis Garrel, Isabelle Huppert incarnant la marquise Constanza Colonna, la protectrice du Caravage. Belle distribution, hein, Xavier.
Ok, mais c'est une purge, c'est une daube, c'est une croûte, hein. Disons les choses telles qu'elles sont, puisqu'on est dans le domaine de la peinture, c'est une croûte, c'est un mauvais là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et pourtant il fait des efforts, hein, de sensualité, il n'y a pas, dans le moindre tableau de Caravage, il y a plus de recherche, il y a plus d'inventivité, il y a plus de sensualité, il y a plus de subversion que dans ce film, qui est en plus raconté en flashback.
Oui, en flashback.
C'est une catastrophe absolue, avec Louis Garrel qui prend l'air quand même très 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 intéressé. Oui, alors, des prostituées, ouais, de l'homosexualité, ouais, d'accord, comme ça. Il n'a pas grand chose à faire. En plus, il a une espèce de petit, comment dirais-je, de petit bonnet sur la tête. Enfin,
là, on est 17e siècle.
Ah, non, c'est catastrophique. Après, il y a au moins une scène que je sauverais. Parce qu'elle m'a tellement fait.
Ah, je sais
rire.
Ce que tu vas dire.
Bah oui, évidemment. Mais allez-y, rien pour ça. Malheureusement, elle est à la fin. Donc, il faut quand même se fader 1h45 pour la voir. Et le film fait 2h.
1h58.
Oui, mais c'est ça. Mais elle est dans le dernier quart d'heure. Isabelle Huppert, un rêve érotique et onaniste avec le Caravage, qui n'était pas fait pour les fans, tout le monde le sait. Et là, je dois avouer que voir Isabelle Huppert en train de se toucher sous les draps en rêvant à un amant qu'elle n'a pas eu. Je sais pas. Moi, ça m'a fait mais mourir de rire. Et je me suis demandé. Non, mais la pauvre, en plus, elle y va, hein, je veux dire, elle fait très très bien son boulot de comédienne, mais je me dis, mais quel est le réalisateur capable de tourner cela et de monter sur toute la scène, qui est une horreur absolue. Enfin, on dirait une espèce de téléfilm érotique de M6, et là, je me suis dit, mais c'est là, on a touché le fond, quoi.
Pierre.
Ah oui, c'est une croûte absolue, c'est un académisme total. Alors les figurants, ça voudrait évoquer un peu Fellini, enfin, je sais pas si vous avez vu les fous.
Sans aucune folie.
Hein?
Sans aucune folie.
Non, sans aucune folie, c'est ça le problème. Oui. Mais il y a des figurants, il y a des costumes, il y a des couleurs, tout ça, ça s'agite beaucoup. Et alors, c'est d'un académisme ahurissant, quoi. Je savais pas qu'on pouvait encore tourner des biographies comme ça. Ben, la preuve que si.
Doublage est raté, ça déborde de partout. Enfin,
c'est épouvantable. Louis Garrel en petit grand inquisiteur est inénarrable. Parce que ça, inénarrable. C'est vraiment un de ses rôles où il fait le plus rire. Isabelle Huppert, ben là, elle est quelquefois très bonne, mais là, elle l'est pas. Et voilà. Non, moi, j'ai pensé au film de Derek Jarman, qui, il y avait quelques années, il avait fait un Caravage qui était très très bien. Alors la thèse de Derek Jarman, qui n'est pas celle-là, c'est que Caravage était gay et uniquement gay. Alors là, il y allait à fond, mais au moins il y avait quelque chose qui échappait à l'académisme auquel ce film n'échappe absolument pas.
Tu n'as pas aimé ce film?
Ah non.
Ah.
C'est raté à un point. Ouais, vous avez été assez cruel pour le film pour que j'en rajoute pas des tonnes, mais je trouve que l'enquête est une très très fausse bonne idée. C'est, en effet, comme vous l'avez dit, ça implique des allers-retours qui sont insupportables parce que ça charge, parce que ça répète toujours la même chose, hein, à savoir que le Caravage s'inspirait de la misère autour de lui et de la saleté, de la crasse qui était autour de lui pour avoir des modèles, etc., les prostituées, tout ça. Bon, et ça répète toujours la même chose, et que son génie est transgressif, etc. Et la très mauvaise idée aussi, en effet, c'est ce personnage fictif de Garrel qui ne cesse de commenter finalement l'œuvre. Enfin, on a le sentiment que Placido n'a pas réussi à trouver une vraie dramaturgie pour parler du film sans blabla, quoi. Il faut qu'il y ait des mots. Je me souviens que Kolchalowski a fait un Michel-Ange il y a quelque temps magnifique, où il avait cette idée visuelle superbe du barbre qui est comme un Graal, qui était Moby Dick, c'était magnifique comme idée. Là, il n'a pas trouvé d'équivalent. Alors il parle, mais le film, et puis il suffit pas de filmer la crasse pour montrer le génie de Caravage. Et
cela dit, c'était pas un personnage fictif, le rôle de Garrel, parce que le pape avait vraiment envoyé un inquisiteur pour en savoir.
Alors,
plus.
Écoute, je sais, parce que dans le dossier, ils disent que c'est un personnage fictif, que je me suis autorisé à le dire. Non, de temps en temps, je regarde un peu.
Michel.
Non, je vais pas essayer de sauver ce film. Il y a eu de grandes. Moi, j'adore les biopics, contrairement à beaucoup de mes confrères. J'adore les biopics parce que j'apprends beaucoup de choses. Mais c'est pas Mr. Turner, c'est pas le film de Kontchalowski, c'est pas le Van Gogh de Piala.
Ah,
on a vu
dire.
De très grands films.
Greenaway non plus.
Munch de Peter. Watkins,
qui est sublime.
Superbe. Alors, là, au contraire, moi je sauverais tout de même le personnage de Louis Garrel. C'est le seul personnage fictif qui n'existe pas dans la réalité, et je trouve que c'est un personnage intéressant. Mais en dehors de ça, évidemment, alors peut-être on peut le voir maintenant, il y a une réhabilitation de toutes les séries B italiennes des années 60.
C'était pas le modèle, je pense pas, non.
C'est populaire, etc. Alors peut-être que ce film, dans 30 ans, va être culte, mais en tout cas pas pour moi.
Caravage de Michele Placido, des réactions ici, non. On passe à Joyland, premier film du Pakistanais. Saïm Sadiq, et je remercie d'ailleurs Xavier qui m'a poussé à le voir, je l'avais un peu ignoré, puisqu'il était passé au Festival de Cannes. Haider, qui est incarné par l'étonnant Ali Junejo, vit à Lahore avec son épouse dans la maison familiale où tout le monde cohabite, sous l'autorité d'un patriarche, qui ordonne à Haider non seulement de devenir père, mais aussi de trouver du boulot, et puis de savoir égorger une chèvre, très important. Bref, d'être un homme, un vrai. Et le boulot, Haider le déniche, mais dans un cabaret où il tombe vite amoureux de la magnétique danseuse Biba, qui est jouée par Alina Khan. Or, Biba est une femme trans. Ce film, qui ose briser un tabou dans une société ultra-patriarcale, a reçu à Cannes le prix du jury Un Certain Regard, ainsi que la Queer Palme. Ajoutons que la réalisation est d'une délicatesse en même temps d'une puissance rare, titre évidemment hautement symbolique et métaphorique, puisque Joyland, c'est aussi le nom du parc d'attractions qui se trouve à Lahore. Sophie.
Oui, c'est un très très beau film qui est à la fois terrible et voluptueux, enfin et élégant, et tu l'as dit, délicat. Il montre très bien comment le patriarcat pèse sur les femmes et sur les hommes. Surtout quand on est comme Haider, doux, gentil, et qu'on ne veut pas faire peser sur sa propre autorité. C'est un film étonnant, c'est un film qui aime énormément ses personnages, parce que tous, finalement, sont attachants. Même le patriarche n'est pas caricatural, jamais, jamais c'est caricatural. Même la belle-sœur qui est un peu conservatrice, on va voir comment, à la fin, il en fait autre chose. Enfin, il y a comme ça une construction extrêmement intelligente, extrêmement bienveillante. Et puis, il montre aussi les paradoxes de la société pakistanaise. Parce que les femmes, il faut voir, elles sont écrasées, emprisonnées par le patriarcat. Mais il faut voir comment elles parlent de sexe entre elles. Alors Biba, bon, on peut le comprendre parce qu'elle est à la tête d'une armée, d'une troupe de danseurs qu'elle renvoie comme ça à leur vulgarité et à leur obsession de ce qu'ils ont entre les jambes. Mais les belles filles, enfin les deux belles filles, quand elles parlent de sexe, elles y vont, quoi. C'est incroyable de montrer ça. Et je trouve que le film, là où le film est magnifique, c'est qu'il se termine sans révéler la fin, par se donner la parole à Nunchi, la belle fille, qui est pourtant la plus conservatrice et qui à un moment donné prend la parole, explose et cloue le bec de son mari et du vieux et de tout le monde et des hommes. Mais pour en arriver là, il a fallu des drames, il a fallu une construction d'une intelligence incroyable pour arriver jusque là, quoi. C'est vraiment un très beau film.
Et puis une réalisation, encore une fois, qui est d'une souplesse et en même temps
délicate et étincelante et assez voluptueuse,
brillante,
quand même.
Assez brillante, oui. Michel.
Oui, c'était le premier film, paraît-il, pakistanais, jamais montré à Cannes.
Ah bon ?
Et on est surpris de la qualité, justement. C'est le contraire du film à thèse. Ça aurait pu être un film très appuyé, très démonstratif, y compris, par exemple, le personnage de la femme, de cet homme qui tombe amoureux de cette femme, de cet transgenre, et qui, au fond, a la compassion, de l'amour pour lui, alors qu'elle sent qu'il lui échappe. Qu'il est en train de partir ailleurs, et le personnage n'est pas du tout maltraité, du tout, au contraire. Donc c'est un film très généreux, très délicat, effectivement.
Mais vous le dites pas assez, très osé aussi, quand même, parce que...
Bien sûr, parlons pas le culot de faire un film comme ça au Pakistan.
Je sais pas s'il a été diffusé au Pakistan, est-ce qu'il est montré ?
Très répressif.
Alors justement, s'il est shortlisté pour les Oscars cette année, aux côtés de Saint-Omer, puisque la liste est tombée il y a quelques jours... Pour représenter le Pakistan, c'est grâce à la France, parce que le Pakistan a retiré son visa d'exploitation au film après Cannes.
Voilà.
Il l'avait autorisé pour le festival, je pense qu'il ne l'avait pas vu, donc depuis ils l'ont vu. Donc ils l'ont retiré le visa d'exploitation, et grâce à la France qui a pu le sortir, donc... toute fin décembre, le film a pu concourir pour les Oscars, et donc il fait partie des 15 films shortlistés. Donc voilà, merci à la France, merci à Condor, le distributeur, parce que je trouve que c'est un vrai acte militant. Sinon, le film n'existait pas pour les Oscars de 2023. Sera-t-il dans les 5 derniers? Je le souhaite, évidemment. C'est un film, moi, que j'ai vu à Cannes et qui m'a hanté depuis, enfin, je l'ai revu plusieurs fois. Je trouve que c'est un film absolument magnifique, vous l'avez très bien dit. Je trouve que la femme, l'épouse, n'est pas sacrifiée, c'est généralement un rôle très caricaturé de Bécasse, qui n'a pas vu que son mec préférait éventuellement un homme. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Elle a une compassion, une complicité avec lui. C'est pas un sujet, en plus, le fait que cette danseuse soit transsexuelle. On lui dit, mais t'as remarqué, c'était pas une femme. Il dit, bah oui, bien sûr que j'ai remarqué. Donc on clôt tout de suite cette espèce de tentation classique du quiproquo, du machin. C'est très clair, c'est très net. Et tu parlais de la mise en scène, je trouve qu'elle elle touche au sublime quand sa femme lui dit, mais alors, donc, t'es devenu danseur, vas-y, montre-moi ce que tu fais. Et donc, il se met à danser un peu hors champ. Et plutôt que de faire un champ contre champ, c'est-à-dire d'alterner des plans sur l'épouse et des plans sur le mari, dont on sait qu'il danse mal, on reste uniquement sur l'épouse et sur le regard de cette femme attendrie, pétrie d'amour pour un homme qui est en train de lui échapper. Rien que pour ce plan-là. Et il y en a un milliard d'autres dans
cette,
le film.
Cette scène d'amour qui n'a pas lieu est d'une force aussi.
D'une violence. Mais il y a.
Une violence incroyable.
Il y a aussi un coup de foudre, au sens littéral du terme. Il y a des inventés. On dirait parfois même du Fassbinder de la première époque, parce que ça utilise les néons, l'odeur de l'extérieur, la réalité de façon absolument. Le glauque devient sublime. C'est pour moi un des grands, grands films de l'année aussi.
Pierre.
Non, mais vous l'avez tout dit, donc je vais être très court, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce qui me plaît vraiment le plus dans cette galerie de personnages, c'est vraiment l'épouse du héros. Le personnage le plus touchant, c'est cette femme qui a épousé ce type parce qu'on lui avait dit qu'elle pourrait travailler, puis finalement on l'a privée de ce travail, et qui se morfond depuis. Et je trouve que c'est ça qui est presque le plus bouleversant dans ce film, plus que les autres personnages qui sont très bien et qui sont, sauf le père, moi je le trouve un peu caricatural, mais enfin bon,
non,
passons. Mais enfin bon, mais en tout cas c'est ce personnage-là que je trouve le plus et dont le sort va être tragique. Voilà.
Joyland de Saïm Sadiq. Vous serez bref, j'imagine, sur Le Petit Piaf. Le 12e film comme réalisateur de Gérard Jugnot. Je ne sais pas qu'il avait fait 12. Dans un village de la Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur pour que sa mère, qui est jouée par Stéphie Selma, très bonne comédienne, sa mère qui l'élève seule, pour qu'elle soit fière. Et il postule à l'émission de Téléstar Kids et trouve un coach en la personne de Pierre Leroy, chanteur aussi célèbre que has-been, c'est donc Marc Lavoine, qui anime les soirées dans l'hôtel où travaille la mère de